ouvrir la parole de Dieu, on va revenir sur la prédication de dimanche matin concernant ce sujet difficile qu'est la mort. Alors avant d'aller dans ce texte, voilà, ne le regardez pas, n'écoutez pas pour le moment. Voilà. On a regardé au travers des Écritures, dimanche, ce sujet difficile qu'est la mort et la manière dont l'apôtre Paul en a parlé quand il est arrivé à pouvoir dire « mourir m'est un gain ». Donc ça, on ne peut pas le dire dans notre vie comme cela, on ne peut pas le dire facilement, on ne peut pas le dire n'importe quand. Mais on a regardé la parole de Dieu sur ce sujet difficile avec un angle d'approche complètement différent. C'est-à-dire que la mort est un ennemi, et le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort physique. La mort ne faisait pas partie de l'œuvre de Dieu, et le Seigneur est venu pour la vaincre, pour nous donner la réconciliation avec Dieu, ça veut dire que la mort spirituelle, pour tous ceux qui croient dans le Seigneur, c'est fini. Ils ne sont plus séparés de Dieu. Et le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort physique. Et comme je le disais dimanche, le Seigneur est venu vaincre la mort dans l'ordre de son apparition. Elle est d'abord apparue spirituellement, le jour où tu en mangeras, dira le Seigneur à Adam et à Ève, le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Et le jour de la désobéissance, ça a été le jour de la séparation d'avec Dieu, la mort spirituelle. La mort physique n'est pas arrivée le jour même. La mort physique, c'est des dizaines d'années plus tard. Mais la mort spirituelle est immédiate. Et souvent, je prends l'exemple de la fleur que l'on coupe. Dès qu'on l'a coupée, elle est morte. Par contre, elle ne va pas faner dans la minute qui suit, parce qu'on va la mettre dans l'eau, on va lui mettre du produit pour qu'elle dure un peu. L'homme séparé de Dieu, il est mort spirituellement, et physiquement, ça ne se voit pas de suite. Mais spirituellement, oui. C'est immédiat, mais pas physiquement. Physiquement, c'est des dizaines d'années plus tard. Et le Seigneur est venu vaincre la mort dans le même ordre où elle est arrivée, c'est-à-dire la vaincre spirituellement, immédiatement. Et quand il donne sa vie à la croix pour le pardon des péchés, il peut dire à un brigand, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et spirituellement, c'est réglé de suite. Et physiquement, eh bien, la mort, c'est le dernier ennemi qui sera vaincu au retour du Seigneur. Et quand le Seigneur reviendra, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Nous, les vivants qui serons restés, on sera enlevés et transformés et changés. Donc voilà un petit peu le résumé très très rapide de ce qu'on a vu dimanche. Et je voudrais ce soir, dans le cadre de l'étude biblique, y revenir avec un schéma qu'on a déjà vu, qui n'a d'autre vocation que d'être un support visuel. Voilà. Donc la difficulté sur des sujets aussi délicats, c'est d'arriver à tout mettre sur un schéma. Alors, regardez-le.
J'avais préparé un bâton. Ne vous inquiétez pas, je cherche le bâton. On va cacher mon bâton.
Voilà, je vais prendre la baguette. Ça va marcher à la baguette. Voilà, là-haut il est écrit la vie avec Dieu ou sans Dieu. Quand, comment, où, ce que les gens disent habituellement. D'accord? Alors, les gens disent en général, c'est mal passé, que après, on ne sait pas, on parle de réincarnation, on parle de disparition, on parle d'esprit, on parle de néant, enfin, chacun dit après la mort ce qu'il croit. Voilà. Et on a de tout. La Bible dit que l'on naît, on vit, et après, il y a des choses qui sont écrites dans la parole de Dieu. Alors on va le suivre sur le trait du bas. Quand les gens disent « on est », Dieu nous dit que c'est lui qui nous a créés, c'est la conception, à son image, et avec des textes bibliques qui vont avec. La vie se déroule, et le seul moment de notre vie, parce que notre vie se déroule jusque dans l'éternité, hein, le seul moment de notre vie où l'éternité change, c'est entre la naissance et la mort ici-bas. C'est le seul moment où notre éternité peut changer et on peut passer sur le trait du haut, qui est le trait du salut qui nous amène au ciel. Voilà. Et l'œuvre du salut, c'est Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que celui qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Pour ceux qui ne veulent pas, rien ne change. Leur vie continue, après le jugement dernier, leur vie s'en va en enfer. Pour ceux qui se convertissent, leur vie change. Et quand la mort physique arrive, alors qu'est-ce qu'il y a après? Eh bien, la parole de Dieu nous dit qu'après, il y a le sein d'Abraham et un lieu de tourment séparé par un abîme infranchissable. C'est ce que l'on trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 16, avec l'histoire de Lazare. Ce n'est pas une parabole. Ça veut dire que ce n'est pas une histoire support d'une vérité. C'est une vraie histoire, avec des personnages et avec des noms. Et après la mort physique, en attendant la résurrection, tous ceux qui partent dans le séjour des morts, qui est composé du sein d'Abraham, d'un lieu de tourment qui séparé par un abîme infranchissable. Voilà. Donc on lira le texte tout à l'heure. Et après, quand le Seigneur reviendra, il y aura la première résurrection. D'accord ? Le règne de 1000 ans, appelé le millénium, et la deuxième résurrection. Et là, c'est le jugement dernier, où les hommes ne sont pas sauvés, mais où les hommes entendent juste ce qui les concerne, parce qu'ils sont ou déjà sauvés, ou ils ne sont pas sauvés. Voilà. Et vient le jugement dernier, où le Seigneur va... Ça va être la deuxième résurrection. Donc on va voir ces textes tranquillement, voilà. Et après on verra autre chose quand on le fera dérouler. Là, je vois déjà des yeux qui se foncent. Alors, la conception, vous suivez? On va regarder juste les cadres. Conception, salut, première mort, première résurrection, deuxième résurrection et deuxième mort.
Juste un détail. Est-ce que vous avez recommencé le schéma que vous nous avez déjà distribué?
Non.
C'est toujours le même?
C'est le même. Oui, parce qu'il m'avait demandé beaucoup de mal.
Voilà.
Et normalement, il n'y a pas d'erreur.
Ok.
Voilà. Ouais. Si un jour je le retravaille, ce sera peut-être pour l'améliorer au niveau lecture. Mais la difficulté sur un sujet comme celui-là, comme quand on parle de l'Apocalypse, c'est d'arriver à faire un schéma synthétique. C'est pas évident. Je vous assure que c'est loin d'être évident. Voilà. Celui-là, il est peut-être pas parfait, mais il est synthétique. Il y a tout dessus. Voilà. Donc Genèse chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Voilà. Et c'est ce que la Bible déclare. L'homme n'est pas issu de la rencontre de molécules, de fruits du hasard, ou d'une descendance quelconque, animale ou végétale, mais l'homme est créé. Faisons l'homme à notre image. Voilà. Donc nous savons, ou nous avons appris, quand nous nous sommes convertis, qu'en fait c'est Dieu qui nous a créé à son image, à sa ressemblance. Arrive le moment du salut dans notre vie. Jean 3,16, on va le regarder. On va regarder qu'un texte hein, par cadre. Jean, chapitre 3, et verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est le moment de notre vie ici-bas où l'œuvre du salut peut se faire. Lorsque nous tournons notre cœur vers le Seigneur, on laisse de côté dans ce schéma question concernant ceux qui n'ont jamais entendu parler du Seigneur Jésus. D'accord ? On parle de l'œuvre du salut réalisée à la croix. Et arrive ensuite la mort physique, Hébreux 9.7. Hébreux 9.7. Donc on rentre un peu dans l'étude biblique. Hein. Prenez l'habitude d'amener vos Bibles, que ce soit le format papier ou le format électronique. Mais je crois que c'est bien d'amener la Bible. Lundi, il y a un jeune couple pastoral qui a rendu son témoignage. Tous ceux qui sont appelés au ministère et qui commencent, comme Cédric et Myriam, à un moment donné, donc, sont présentés à la pastorale. Et puis on écoute le témoignage de conversion et d'appel au ministère, parce que c'est important de chacun. Et il y avait un couple lundi qui s'exprimait, lui il est d'origine mexicaine, elle est vendéenne je crois, et ils se sont rencontrés en France, ils parlent. S'il n'avait pas dit qu'il était mexicain, on n'aurait rien vu, hein. Strictement aucun accent. Voilà. Et elle disait, mais moi je suis issu d'une famille catholique, mais j'ai toujours cru à Jésus, je voulais lire la Bible. Puis c'est une amie, une copine qui m'a donné la Bible. Et j'ai toujours aimé les protestants parce qu'ils ont donné leur vie pour le livre. Et c'était comme ça qu'elle parlait. Moi, ça m'a fait vraiment du bien d'écouter ce témoignage. C'était frais, elle a de la fraîcheur dans ce témoignage. Et donc, elle disait qu'elle a tout découvert. Et quand elle est venue pour la première fois, il y a une dizaine d'années, dans une église, ce qui l'a interpellée, c'est que tous ces gens, ils avaient la Bible sur les genoux. Ça a l'air de rien, hein. Pour nous, nous avons l'habitude, mais pour quelqu'un qui rentre, il découvre toute autre chose. Est-ce qu'il connaissait l'Église? Peut-être pas, peut-être oui. Comment la connaissait-il? On n'en sait rien. Mais pour nous, c'est une question de témoignage, et vraiment de témoignage. Amenons notre Bible. Mettons-la ouverte devant nous quand des textes sont lus, même si nous les connaissons. Parce qu'il se peut que vienne à un moment donné s'asseoir à côté de nous quelqu'un qui ne connaît rien, et on va pouvoir lui dire, tiens, suis. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est projeté. Moi, je suis un peu partagé avec cette question-là, parce que l'effet induit, c'est que plus personne n'amène la Bible. Alors bon, ça c'est qu'un point de vue personnel. Donc on va dans Hébreux chapitre 9, verset 27. Vous tous qui avez amené la Bible, vous allez pouvoir lire. Et ceux qui ne l'ont pas amené, la prochaine fois, vous l'amenez. Non, mais je vais vous mettre mal à l'aise, ceux qui ne l'amènent pas. Ne vous inquiétez pas, ça va devenir de pire en pire. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement ? Voilà. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement ? Ça veut dire que le moment du salut dans notre vie, c'est ici-bas, pendant notre existence, sur la terre. Et ensuite, à la question « Comment sont les choses après ?» Eh bien, on va dans l'évangile de Luc, et là, on va lire le récit, parce qu'il est complet. C'est le Seigneur qui le donne, et moi, j'appelle cela « Fenêtre ouverte sur l'au-delà ». On entend aujourd'hui des témoignages de personnes, chrétiennes ou pas chrétiennes, le témoignage se rejoigne, même presque dans le détail, sur ceux qui ont fait des expériences extracorporelles, à un moment donné, de coma dans leur vie. Dans la mesure où les deux témoignages, chrétiens ou non chrétiens, se rejoignent, moi je me dis qu'ils ont certainement vu des choses, mais je ne pense pas qu'ils aient tout vu. Parce que celui qui a tout vu ne revient pas, à mon sens, au regard des Écritures. Donc ce n'est pas pour remettre en question ce qu'ils ont vu, mais c'est simplement pour dire que c'est qu'une partie. Est-ce que c'est le début de ce passage? À mesure où c'est la même chose pour les croyants et les non-croyants, je serais tenté de dire que oui. Mais à mon avis, ce n'est pas la fin, parce que sinon, on ne revient pas. Voilà, donc Luc chapitre 16, verset 19, c'est un récit. Une histoire vraie que seul le Seigneur Jésus pouvait donner. Il y avait un homme riche, Luc 16, 19, qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Et là, nous découvrons quelque chose. C'est dans l'au-delà, comme on le dit, il y a, en attendant la résurrection, le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi. Et il fut enseveli dans le séjour des morts. Donc on est bien là où il faut, pour la question que nous regardons. Il leva les yeux, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, « souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. » Donc, c'est une résurrection, pas forcée, mais encouragée. « Car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes. » C'est-à-dire une expression pour dire « ils ont les Écritures ». Les Juifs disent « Moïse et les prophètes », c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible et les prophètes. L'Ancien Testament, donc, puisque l'Ancien Testament pour nous, c'est la Torah pour les Juifs. Puisqu'eux ne reconnaissent pas Jésus, le Nouveau Testament, eux, ils ne le reconnaissent pas. Donc ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts est ressuscité. » Alors pour régler définitivement cette question, imaginez quelqu'un qui vient de vous dire, « Je viens de ressusciter des morts. » Qu'est-ce que vous allez penser de lui? On fait un peu un scénario. Je sors du cimetière, de la tombe. Qui va le croire? Donc, Dieu est intelligent, s'il fallait le dire comme ça. Ce n'est pas en envoyant quelqu'un du séjour des morts que les gens vont croire. Il nous dit, lui, ce qu'est la vérité, et c'est suffisant. Et c'est suffisant. Donc, on referme la parenthèse. Et ce qu'on découvre, là, dans le séjour des morts, c'est qu'il y a le sein d'Abraham, c'est ce lieu où vont les croyants. Il y a un lieu de tourment, et entre les deux, un abîme que personne ne peut franchir. Et si quelqu'un voulait aller de là vers vous, de vous vers nous, ce n'est pas possible, dira Abraham. Et ce qui apparaît déjà là, et c'est dit d'une manière simple, c'est que la vie est complètement inversée entre le séjour des vivants et le séjour des morts. C'est-à-dire que cet homme était ulcéreux, Lazare, à tel point que son soulagement, c'était les chiens qui venaient lécher ses ulcères. Maintenant, il est dans le sein d'Abraham. Il n'y a rien de plus beau pour un juif que d'être dans le sein d'Abraham. Et là, on sent une inversion de la réalité de ce que vivent les personnes entre ce qu'elles vivaient sur la terre, dans leur vie humaine, et ce qu'elles vivent maintenant dans le séjour des morts. C'est complètement inversé. C'est vrai aussi pour le riche. Il ne lui manquait rien, et là, il est dans un tel état qu'il souhaiterait un peu d'eau avec le bout du doigt. Essayez de vous désaltérer avec de l'eau au bout du doigt, vous allez voir. Donc, s'il aspire après cela, ça veut dire que sa situation est déjà difficile. Et ce n'est pas l'enfer. Je ne veux pas brosser le tableau de manière négative, mais ce n'est pas l'enfer. C'est le séjour des morts, dans lequel il y a un lieu de tourment. Voilà. Et les choses par rapport à la vie terrestre sont complètement inversées. Même dans la manière, si on peut appeler ça comme ça, Lazare meurt, ce sont les anges qui le portent. Le riche meurt, il est enseveli, point barre. Ça veut dire que quand quelqu'un meurt sans Dieu, parce qu'il n'en veut pas, ben Dieu n'est pas là, à ses obsèques. Il ne s'occupe de rien le concernant. Mais quand un croyant meurt, le Seigneur est là. Et ce sont les anges qui le portent dans le sein d'Abraham. Ce sont des petits détails. Et ces petits détails, quand on les regarde sans trop forcer, nous montrent de quelle manière Dieu prend soin de ceux qui croient en lui. Particulièrement dans ce moment qui est difficile. Voilà. Et qui par la grâce de Dieu, ne l'est pas. Ce qui est difficile, c'est peut-être les derniers moments de la vie de quelqu'un parce que physiquement, il a le cancer. Il souffre. Mais dès l'instant où il ferme les yeux, c'est fini. Il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de cri, il n'y a plus rien. C'est fini. Voilà. Donc, c'est un sujet de consolation, déjà pour ceux qui croient dans le Seigneur Jésus. Pardon, excusez-moi, un petit peu plus fort, s'il vous plaît.
C'est pour ça qu'on voit, quand on parle, j'ai vu une personne délivrée, on voit qu'elles sont tiraillées sur leur faciès, dans une douleur sur le visage et le corps. Et quand le moment est venu que le souffle de Dieu est parti, elles ont un visage qui est complètement
étendu,
reposé, etc.
Certainement. Ouais. Certainement. Mais là, comprenez que à partir de tels textes, sans l'avoir vécu forcément, on peut aller jusqu'à un certain point, mais pas trop. Parce que sinon on n'a plus d'appui biblique. Certains vont dire, jusqu'à quel point est-ce qu'on se reconnaît? Vous réalisez que si on va trop loin dans les explications, on n'a plus d'appui biblique. Voilà. Donc, dans le séjour de mort, ils se reconnaissent. Jusqu'à quel point, je ne sais pas. Mais le mauvais riche dit, j'ai 5 frères. Et je ne veux pas qu'ils viennent ici. Voilà. Donc maintenant, on va dans 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Thessaloniciens chapitre 4 et verset 13. Voilà ce que l'apôtre Paul va déclarer. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés. Donc c'est très précis, c'est très clair, on sait où on est, de quoi on parle. Afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez. Pour l'avènement, c'est-à-dire le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Et là, il y a quelque chose de fort que l'apôtre révèle aux Thessaloniciens qui étaient dans l'affliction, et à juste titre, on peut se poser des questions par rapport à ceux qui nous ont quittés et être même dans l'affliction. Et il dit, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés et que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Et la différence majeure, elle est là, dans l'espérance de la résurrection à cause de l'œuvre que le Seigneur a faite. Et quand il reviendra dans l'ordre des choses, mais ça va aller très vite, mais il y a quand même un ordre, même si ça va vite, c'est les morts en Christ ressuscitent premièrement. Et moi, j'aime dire, le Seigneur qui ne voulait pas la mort fera comme première œuvre la résurrection de ceux qui sont passés par la mort. Parce qu'il ne la voulait pas. Parce qu'il s'y est opposé. Et la plus belle chose et la première des choses que le Seigneur fera, c'est de les ramener à la vie. Pas avec le corps qu'ils avaient avant de mourir, parce que ça c'est un autre aspect de la résurrection, mais de les ramener à la vie, avec un corps glorieux. Voilà. Et nous les vivants qui serons restés, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. C'est-à-dire que ceux qui sont décédés passeront en premier, et nous nous suivrons. Et ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Et consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Et là, nous sommes avec la première résurrection les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous les vivants, les croyants vivants, qui seront restés, nous serons enlevés. Et c'est la première résurrection. Voilà. Et à partir de là se déroule ce que la Bible appelle le millénium, ce règne de 1000 ans, que nous appelons pardon, le millénium, ce règne de 1000 ans sur la terre, et qui va amener jusqu'à la deuxième résurrection. Et on arrive à la deuxième résurrection dans Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20, on va le lire lentement. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme infranchissable, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ni sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. On ne va pas regarder ce point-là du règne des chrétiens de cela pendant le millénium. On reste sur l'aspect résurrection. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Donc au retour du Seigneur, il y a des choses qui se passent sur la terre, mais il y a des choses qui se passent dans ces jours des morts. C'est la première résurrection. Résurrection. Et aujourd'hui, personne n'est ressuscité. Un seul est ressuscité, c'est Jésus. Il est les prémices de la résurrection. Il est l'annonce de la résurrection à venir, puisqu'il était mort et il est revenu à la vie. Et quand il reviendra chercher les croyants, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous, qui les vivants qui serons restés, nous serons changés. Ça veut dire qu'il y aura des croyants qui physiquement ne mourront pas, mais ils seront changés. Et moi je me dis, et comprenez le raisonnement, je me dis, Seigneur, tu ne permets pas que les uns vivent quelque chose de douloureux et pas les autres. Ça veut dire que celui qui meurt en Christ ne passe pas par quelque chose de difficile. Ces derniers moments, physiquement parlant, peut-être le sont à cause de la maladie, mais le fait de mourir n'est pas une douleur. Parce que le Seigneur a vaincu. Voilà. Tout simplement. Et ceux qui meurent en Christ vont dans le sein d'Abraham et on y trouve même un rapport complètement inversé. L'ulcéreux, dont le seul soulagement était que les chiens viennent lécher ses plaies, se retrouve dans un lieu des plus agréables qui soit, dans l'espérance juive, dans la pensée juive, dans la croyance juive. Il n'y a rien de plus beau que le sein d'Abraham. Voilà. Pour nous, ça, c'est une expression, le sein d'Abraham. Parce que ce n'est pas culturel. Mais pour un juif, le sein d'Abraham, c'est comme si nous parlions du paradis, d'une certaine manière. Voilà. Et c'est la première résurrection. Verset 11. Puis je vis un grand trône blanc, donc au terme des 1000 ans, on va lire « Quand les 1000 ans seront accomplis », comme ça il n'y a pas de coupure. Verset 7. « Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre, leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent à la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de souffle, où sont la bête et le faux prophète, ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. » Puis, je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, donc ceux qui ne sont pas ressuscités. Les grands et les petits qui se tenaient devant le trône, des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mort rendit les morts qui étaient en elle, et la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu, c'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Amen. Et là, c'est la deuxième résurrection. Mais ce n'est pas une résurrection pour la vie, c'est une résurrection pour le jugement. Voilà. Et la seconde mort. Ça veut dire que là, il n'est pas question de mort physique. La première mort, c'est la mort physique. Mais de seconde mort, c'est l'enfer. C'est la perdition pour l'éternité. Le schéma a juste le mérite de poser un petit peu les choses. Le sujet est toujours délicat. Et la question, eh bien, elle nous concerne tous. Et quand Paul, conscient de tout cela, arrive à dire « Je sais ce qui est le meilleur pour moi, c'est d'être avec Christ, mais s'il est préférable pour vous que je reste, alors je resterai. » Et il dit juste avant, mourir n'est un gain. Parce qu'il a compris, il sait ce que le Seigneur a fait, il sait où il va. Voilà. Et on va aller un petit peu plus loin dans la méditation, parce que j'ai osé pousser le raisonnement jusque-là. On va monter. Voilà. Encore. Hop, merci. Voilà. Alors, je l'ai écrit comme ça. Dans la comparaison, parce que ce n'est qu'une comparaison. Ci-dessous, nous réalisons la dimension de l'œuvre de Dieu. Où 1000 ans de notre existence sont comme un jour à ses yeux. Et ça, il faut bien intégrer. 1000 ans de notre existence, c'est comme un jour à ses yeux. C'est pour cela que dans le livre des psaumes, il est dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » On va dans le livre de la Genèse, chapitre 2, verset 17. Et là, je vous oblige, j'allais dire je vous invite, mais en fait vous n'avez pas le choix si vous suivez, je vous oblige à faire un petit peu de gymnastique dans la réflexion. Parce que ce raisonnement nous bouscule un petit peu. Mais il est juste. Et c'est bien de temps en temps que nous soyons bousculés dans nos raisonnements. Genèse chapitre 2, verset 17. On lit à partir du verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme, le plaça dans le jardin d'Éden, pour le cultiver, pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Une autre traduction dit « tu mourras, c'est certain ». Or, nous savons, quand on lit le chapitre 3, que lorsqu'Adam et Ève, Ève et Adam successivement, ont mangé du fruit que Dieu avait défendu, et en fait c'est le geste de désobéissance qui est condamnable, ils ne sont pas morts immédiatement. En tout cas physiquement, ils sont morts spirituellement immédiatement, oui, mais pas physiquement, ni dans les 24 heures qui ont suivi. La preuve, c'est qu'ils vont avoir des enfants et qu'ils vont vivre de nombreuses années. Donc, il ne faut pas prendre le terme « le jour » comme une journée de 24 heures, sinon on est à côté. Puisqu'ils ne sont pas morts le jour même. Ils ont vécu des années et ont eu des enfants. Donc, il faut le prendre dans le sens... comparaison, dans le sens spirituel du terme. C'est un petit peu comme si nous disions à quelqu'un, le jour où tu fais ça, tu n'es plus mon fils. Ouais. On est en train de donner une limite. Voilà. À partir de là, les choses ne seront plus les mêmes. Voilà. Bien, le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Et à partir de là, la mort spirituelle est rentrée, ça a été un effet immédiat, et la mort physique est arrivée, un effet décalé. Puisqu'ils ont vécu des années, puis ils sont morts. Voilà. Quelle est la mesure des choses au regard de Dieu. Lui, il nous dit, parce que nous, parfois, on se pose la question, c'est comment après? Comment on peut estimer les choses après? Eh bien, le Seigneur nous dit, 1000 ans de votre existence, c'est comme un jour, à mes yeux. C'est comme un jour, à mes yeux. C'est dit dans l'Ancien Testament, c'est dit dans le Nouveau Testament. C'est dit dans Psaume 90, verset 4, on va le voir, parce qu'il faut bien poser les bases. Psaume 90, verset 4. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Car 1000 ans, notre existence donc, sous-entendu, sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il n'est plus. 2 Pierre 3:8. Pierre chapitre 3 verset 8. 2 Pierre 3:8. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Voilà. Alors on revient dans le livre de la Genèse. Et là, ce que l'on va partager, mais on l'a déjà partagé il y a quelques années, ce que l'on va partager va nous bousculer sérieusement. On va au chapitre 5 de la Genèse, lire dans l'arbre généalogique des premiers croyants, des premiers êtres, des premières personnes, quel est celui qui a vécu le plus longtemps? Et on le sait, parce que c'est même devenu une expression, Mathusalem. Donc Genèse 5, 25, Methuselah, ou Mathusalem, âgé de 187 ans, engendra Lémec. Methuselah vécut après la naissance de Lémec 782 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Methuselah, ou de Mathusalem, furent de 969 ans. Puis il mourut. Et c'est celui dans la durée de vie qui est mentionné comme le plus vieux. Et moi je me suis dit, mais Seigneur, tu avais absolument raison. Le plus vieux parmi nous n'a pas vécu 1000 ans, 969. Et comme tu nous dis que 1000 ans c'est comme un jour, eh bien, tu avais raison, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et il n'y en a pas un qui a vécu un jour aux yeux de Dieu. Il a vécu 969 ans à nos yeux, on n'arrive même pas à le concevoir. C'est énorme à nos yeux, mais aux yeux de Dieu, c'est rien. Il n'a pas vécu un jour de ce que Dieu avait prévu. Parce que le Seigneur n'avait pas prévu la mort. D'accord? Donc les hommes allaient vivre 969 ans, moi je me dis peut-être même plus. Comment serait-il parti de ce monde? Eh bien, nous avons des exemples. Élie marcha avec Dieu. Enoch marcha avec Dieu. Et puis, il ne fut plus parce que Dieu le prit. Moi, je me dis que c'est là. C'est comme ça que les choses se seraient passées. Sans le péché, sans la désobéissance et sans la mort. Les hommes et les femmes seraient nés. Les hommes et les femmes auraient vécu et vécu longtemps dans un monde qui ne se dégraderait pas. L'homme ne se dégraderait pas lui-même, donc la mort physique, on n'en parle même pas. Et à un moment donné, Dieu prend. Dieu prend. Et nous avons un exemple avec Enoch, marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Et Élie, eh bien Élie, Élisée le voit partir. Et il va apparaître sur la montagne de la Transfiguration, avec Moïse, s'entretenant avec Jésus. Ça veut dire, mes frères et sœurs, que on est passé extrêmement loin de ce que Dieu avait prévu. Parce que quand bien même quelqu'un vivrait 969 ans sans être malade, sans avoir aucun souci et aucun problème, il n'a quand même pas vécu un jour de ce que Dieu avait prévu. Alors imaginez, nous qui avons du mal à vivre 100 ans, qu'avec des problèmes de santé et tous les autres. On est passé extrêmement loin de ce que Dieu avait prévu, à tel point qu'on n'est même plus capable de concevoir comment auraient pu être les choses par rapport à ce que Dieu avait prévu. Et ça, c'est quelque chose qui doit nous bousculer, qui doit nous interpeller. Parce qu'en plus, pendant les quelques années que nous vivons, combien de temps passons-nous sans nous approcher de Dieu, sans croire en Dieu, en nous opposant à lui? Donc au bout d'un moment, dans le gâchis, c'est le massacre. Voilà. Et ça, c'est le dégât du péché. Ça va, je ne choque personne. Moi, ça m'a bousculé, ça m'a tellement marqué que je l'ai marqué. Parce que je me dis, mais c'est là. C'est simple. Peut-être même trop simple, on ne le voyait pas. Mais c'est là. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et il n'y en a pas un qui a vécu un jour de ce que Dieu avait prévu. Voilà. Alors quand on voit autour de nous des gens qui disent, je me réjouis, etc. Mangeons, buvons, demain nous mourrons, mais ils ne savent pas dans quelle folie ils sont, ils n'en sont même pas conscients. Et moi, je l'ai vu sous un autre angle, cette question-là. C'est que 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier tant il n'est plus. Voilà. Et 1000 ans sont pour nous, enfin, je me trompe dans la citation. C'est dans 2 Pierre ce que nous avons lu tout à l'heure. Voilà. Un jour est comme 1000 ans, 1000 ans sont comme un jour. Alors, on a divisé. Et là, on va monter un tout petit peu. S'il te plaît. Stop. On descend un tout petit peu. Encore. Stop. 1000 ans. À nos yeux, comme un jour à ses yeux. Alors, j'ai tout transformé en secondes pour pouvoir diviser par 1000. 24 heures, ça fait 1440 minutes. 86 400 secondes. Bon, c'est pas extraordinaire en soi d'avoir fait cette découverte. Mais par contre, du coup, on peut diviser par 1000 et rapporter à notre dimension cette comparaison. Parce que 1000 ans, c'est trop grand, on n'arrive pas à le concevoir, à le saisir. On divise par 1000, on reste toujours dans la même mesure de comparaison, on n'a rien faussé. Mais par contre, on le ramène à notre dimension. Et quand Dieu dit 1000 ans de votre vie, c'est comme un jour à mes yeux, on divise tout par 1000, et 1 an de notre vie, c'est comme 1 minute 26 secondes 4 dixièmes à tes yeux. Ça veut dire que quand 1 an de notre vie s'écoule, c'est comme 1 minute et demie à peine aux yeux de Dieu. On remultiplie par 1000, 1000 ans comme un jour. Vous voyez, je n'ai rien modifié. J'ai simplement ramené à quelque chose qu'on peut toucher. Ça veut dire que 10 ans de notre vie, ça fait un petit quart d'heure aux yeux de Dieu. 20 ans, on arrive à la demi-heure. 50 ans, je vous dis ça pour parce que le mois prochain, ça va faire mal. 1 heure 12 minutes. Waouh, le vieux. 1 heure 12 minutes. 60 ans, vous n'avez pas encore 1 heure et demie par rapport à ce que Dieu a prévu. 90 ans, vous venez de dépasser les 2 heures. Un film. 100 ans, 2 heures 24 minutes. 120 ans, pas tout à fait 3 heures. Les jours de l'homme seront de 120 ans. Et 969, et ben 23 heures, 15 minutes, 21 secondes, 6 dixièmes, ça fait toujours pas 24 heures. On est dans la même comparaison, mais rapportée à notre dimension. Et ça, ça doit nous bousculer. Alors, chacun d'entre vous, après, pour les jeunes et les ados, je l'avais fait année par année. 11, 12, 13, 14, 15. Mais là, ça fait un tableau trop long, mais il existe. Et franchement, je vous assure que chaque fois que j'ai utilisé ce tableau, ça a marché. Ça a fait mouche. Chacun allait voir son âge et disait, oh, c'est ça que j'ai vécu aux yeux de Dieu. Mais c'est ridicule. Combien c'est ridicule. Et puis les adultes se disent, et pendant tout ce temps, combien de temps j'ai passé à ne pas croire, à ne pas vouloir, à ne pas obéir, à faire n'importe quoi. Finalement, le temps de ma vie aux yeux de Dieu qui peut être utile pour lui, c'est une poignée de secondes, une poignée de minutes, finalement, dans cette affaire-là. Et je termine avec ça. C'est que c'est vrai dans les deux sens. C'est vrai pour nous sur la terre. 1000 ans, c'est comme un jour à tes yeux. Mais maintenant, on va là-haut. On va dans le sein d'Abraham. On va dans le séjour des morts. Quand 1000 ans pour nous s'écoulent, c'est comme un jour. comme un jour. Étienne, premier martyr de l'Église, ça fait 2000 ans. C'est comme deux jours. Le roi David, c'est 3000 ans pour nous. C'est comme trois jours. Dans le sein d'Abraham. Ça veut dire que quelqu'un qui nous a quittés il y a un an, c'est comme 1 minute 26 secondes dans le sein d'Abraham. Ça veut dire, mes frères et sœurs, qu'au travers de cela, il y a une consolation pour nous. C'est que celui qui nous a quittés, nous, on va le pleurer une année, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et quand bien même ce serait 30 ans, ça fait à peine 3 quarts d'heure, 43 minutes, qu'il est dans le sein d'Abraham. Ce que nous, nous avons mesuré, compté et eu en douleur, lui n'est plus du tout dans la même dimension. Et ça, ça doit être un sujet de consolation pour nous. Et moi, je le prends comme un vrai sujet de consolation. Je me dis, mais Seigneur, tout est dans ta parole, c'est simple. Il suffit de regarder derrière des fois. Parce que tu l'écris comme ça, il y a aussi une vérité derrière. Sans forcer l'explication, c'est vrai aussi derrière. Alors, si vous avez perdu un bien-aimé il y a 10 ans, ça fait même pas un quart d'heure qu'il est dans le sein d'Abraham. Nous, pendant 10 ans, ça fait mal. Mais lui, il ne s'en rend même pas compte. Parce qu'en plus, le rapport est inversé. S'il avait été ulcéreux à tel point que ce soit les chiens qui viennent lécher ses ulcères, il est dans le sein d'Abraham, il n'y a rien de mieux pour un juif dans son espérance. Et en plus, dans la dimension du temps qui passe, ça fait à peine un quart d'heure. Donc, la parole de Dieu vient essuyer toutes larmes des yeux, mettre l'espérance là où il y avait la douleur. Et la douleur, elle reste au niveau du cœur, elle reste au niveau de l'âme, elle reste au niveau du souvenir. Mais quand on lit la parole de Dieu, on arrive à un moment donné tous à dire « Merci Seigneur, parce que ta parole, c'est une consolation, c'est une grâce, c'est une bénédiction. Voilà. » Et Étienne, qui nous a quittés il y a 2000 ans, ça fait 2 jours qu'il est dans le sein d'Abraham. Je ne sais pas si ça vous est arrivé d'être dans un endroit magnifique, mais 2 jours, ce n'est pas assez. Vous n'avez même pas le temps de vous réjouir. Voilà. Donc tous ceux qui vont ressusciter quand Christ reviendra, ils n'auront pas vécu les choses comme nous, nous sommes en train de les vivre. En fait, c'est nous qui allons les quitter, ces choses-là. Et il n'y aura plus ni pleurs, ni cris, ni douleurs. Toutes ces choses auront disparu. C'est pour cela que Paul dira, parce qu'il est arrivé à ce point de révélation, et alors il peut le dire, mourir est un gain. Mais tant qu'on n'est pas arrivé à ce point de révélation, on ne peut pas le dire. Sinon, on est fou, pris comme tel, et on l'est peut-être, vraiment. Mais quand on est arrivé à ce point de la révélation, les choses telles qu'elles sont devenues par l'action de Dieu, par la grâce de Dieu qui est venue complètement tout bouleverser, alors celui qui voit cela, celui qui sait cela, celui qui en est convaincu par l'action de l'Esprit, dit, ben, c'est vrai que quitter ce monde, c'est plus... Pour moi aujourd'hui, c'est plus comme c'était avant. Je ne conçois plus pareil. Ce n'est pas pour autant qu'on va se donner la mort. Mais la mort, donc, qui nous faisait crainte, c'est fini. Et tu as délivré tous ceux qui étaient dans la crainte de la mort. Voilà. Et quand quelqu'un s'en va, nous savons que dès l'instant qu'il a fermé les yeux, le seul problème qui reste, c'est pour nous. Mais pas pour la personne qui nous a quittés dans la foi. Voilà. Et comprenez ce que je veux dire aussi, je veux choquer personne, parfois nous on aurait tellement le désir que la personne revienne. Et je crois que la personne dit, ah non, pas de question que je revienne. C'est impropre, mais c'est trop bien. Dans le sein d'Abraham, c'est trop bien avec le Seigneur. Pas de question que je revienne. Et notre intention, parfois, elle est sincère parce qu'elle est émotionnelle. Mais c'est tout. Elle est émotionnelle, mais c'est tout. Et ce que je voulais dire en soulignant tout ça, c'est montrer à quel point, jusqu'où le Seigneur était allé pour vaincre la mort. Dans toutes ces dimensions, autant pour ceux qui restent, qui au travers de la parole trouvent une consolation phénoménale, et autant pour ceux qui sont partis, parce que Lazare, il a dû se dire, si on peut dire waouh, il a dû dire waouh, merci Seigneur. Parce que mes quelques années de souffrance, c'est fini, on ne va plus en parler, devant l'espérance de la vie éternelle qui est en train de se dérouler pour lui. Voilà. Et je crois que la mort, il faut la regarder sous l'angle de la parole de Dieu. C'est toujours un ennemi dans la dimension physique. Mais c'est tout. Et ce dernier ennemi sera vaincu. Mais dans la dimension spirituelle, c'est fini. C'est fini. Et c'est fini avec brio. C'est-à-dire qu'avant même le retour du Seigneur, ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était. Et moi je dis, ben Seigneur, merci. Parce qu'il n'y avait que toi capable de faire ça. Et tu l'as fait par amour pour nous. Et le premier qui est mort et qui est ressuscité, c'est toi. De telle manière que celui aujourd'hui qui meurt, il sait que, eh bien, il n'est pas envoyé dans l'inconnu. Le chemin est tracé, la porte a été ouverte dans les deux sens. Voilà, que le Seigneur soit béni.